8h21 sur France Inter, à suivre les invités de la matinale.
France Inter, Karine Bécard, Éric Delvaux, le 6-9 du week-end.
On va faire un nouveau point sur la situation en Ukraine avec nos deux invités à présent. Cécile Vessier, vous êtes professeur en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2. Et également en ligne à distance, Elie Tenenbaum, vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Et vous êtes l'auteur de l'article « Guerre en Ukraine, leçon de grammaire stratégique » paru sur le site de l'IFRI. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Cécile Vessier.
Bonjour.
Israël a tenté une médiation. Hier, le Premier ministre Naftali Bennett a rencontré Vladimir Poutine à Moscou. Une rencontre de 3 heures dont il n'est ressorti pas grand-chose, pratiquement rien. Est-ce que la diplomatie peut encore avoir de l'influence sur Vladimir Poutine ?
Écoutez, ce qui est certain, c'est que les diplomates auront tout tenté pour essayer d'empêcher cette guerre, d'arrêter cette guerre. On a vu les efforts de Monsieur Macron, on a vu les efforts du chancelier allemand, on a vu les efforts de... Bon, peut-être vains et peut-être inutiles et peut-être en partie, je dirais, ridiculisés par Monsieur Poutine, de la diplomatie européenne. Maintenant, la diplomatie israélienne s'engage également. Je dirais, ce qui m'a surtout intéressé dans cette histoire, c'est de voir que apparemment la rencontre a eu lieu à Moscou. Oui. On dit beaucoup à Moscou que M. Poutine n'est plus à Moscou, que M. Poutine vivrait ailleurs, serait réfugié ailleurs. Bon, la diplomatie aura tout tenté. Ce qui se passe en Ukraine est une abomination. Il fallait tout tenter. On verra. Je crois que M. Poutine est parti sur une autre logique qui ne relève plus des relations internationales, qui relève de l'intimidation et de, je dirais, la barbarie la plus pure.
Mais vous en parlez au passé de la diplomatie, c'est-à-dire vous dites que là, c'est quasiment terminé. Ça fait que 10 jours de conflit.
Écoutez, je souhaite que la diplomatie arrive à quelque chose. Je crains que M. Poutine ne soit engagé dans une autre logique qui est vraiment de violence, d'intimidation et de destruction.
Elie Tenenbaum, pourquoi Vladimir Poutine a-t-il pris la peine de recevoir à Moscou, 3 heures durant, le Premier ministre israélien ?
Bon, je pense que depuis le début de la crise, le Kremlin, et en particulier Vladimir Poutine, utilise la diplomatie aussi comme une forme de diversion. Et ça, je pense qu'il faut pas le négliger. L'armée russe connaît des problèmes tactiques importants sur le terrain, a besoin de détourner l'attention du théâtre d'opération et de se donner du temps pour se réorganiser, éventuellement reprendre son souffle. Et les négociations, depuis le début, servent également à ça. Maintenant, il ne faut pas non plus négliger le fait que Israël aujourd'hui est dans une position un petit peu différente quand même de celle des pays européens, par exemple, qui étaient venus au chevet de la diplomatie de la crise pendant le temps qui a précédé l'attaque. Une partie importante de la population israélienne et russophone. Il y a des liens aussi forts avec l'Ukraine. Et on va dire que peut-être ce petit pays est positionné de meilleure manière que les Européens pour jouer effectivement une médiation. On sait par exemple que c'est le ministre du logement israélien, Zev Elkin, qui faisait office directement de traducteur puisqu'il,
ouais.
Voilà, puisqu'il parlait russe. Donc bon, il y a quand même des choses qui sont intéressantes du point de vue de la négociation diplomatique. Maintenant, je pense pas que dans le stade dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui de la crise, Moscou soit prêt à négocier, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore assez de gages militaires pour se sentir assez fort finalement pour reposer sur la négociation. Après la prise d'une grande ville, voire du contrôle d'une large partie de l'est de l'Ukraine, les choses pourraient commencer à se passer en fonction de la manière dont Vladimir Poutine peut espérer ou au contraire voit difficile l'obtention de gains supplémentaires sur le plan militaire. À mon sens, les armes n'ont pas fini de parler dans cette première phase du conflit.
Mmh. Alors, il y a un autre personnage qui peut-être avoir de l'influence. En tout cas, je vous pose la question, Elie Tenenbaum. On réentend parler du président turc, Erdogan. Les deux hommes se connaissent bien. Ils ont prévu de se parler, d'échanger notamment aujourd'hui. Est-ce que, là aussi, ça peut éventuellement changer les choses ou pas ?
Oui, alors la spécificité de la relation avec la Turquie, c'est que au contraire des médiateurs classiques, on va dire venus sans moyen de pression, Erdogan lui en a un qui est évidemment le contrôle des détroits, mm-hmm. avec le lien de survie, le cordon ombilical pour la flotte russe de la mer Noire, hein, puisque l'accès à la Méditerranée est essentiel pour son ravitaillement. Et à plusieurs reprises, Erdogan a montré qu'il était capable de jouer de cela en utilisant le protocole de Montreux qui lui autorise à fermer la navigation de ces détroits aux bateaux de guerre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui compte dans la négociation avec la Russie, avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire ne pas utiliser uniquement la bonne volonté, mais également les moyens de pression. Et ça fait que, à minima, il doit être entendu. Ça ne veut pas dire
Que ça va le freiner.
Ça va déboucher. Mmh. Voilà.
La diplomatie comme diversion, disiez-vous en début d'entretien. Il y a aussi le volet nucléaire comme menace. Que cherche Vladimir Poutine en s'emparant des centrales nucléaires ukrainiennes ?
Bon, je pense qu'il faut distinguer quand même le contrôle militaire tactique des centrales nucléaires ukrainiennes sur le terrain et les menaces d'emploi de l'arme nucléaire. On est sur deux registres différents. Le contrôle des centrales nucléaires, ça fait partie d'une stratégie de contrôle tout simplement. D'abord, j'ai envie de dire, elles étaient sur le chemin. Il y a une remontée vers le sud, le long du Dniepr, et que donc, ces centrales étaient là. Évidemment, ce sont des atouts stratégiques, des positions qu'il faut prendre, et en plus, accessoirement, elles contrôlent entre 10 et 20% de la production électrique du pays, et donc évidemment, ça donne un pouvoir militaire ou une influence militaire considérable sur le théâtre. Les menaces militaires qui ont été préférées dimanche dernier, en fait, il y a une semaine, avec le rehaussement du seuil d'alerte des forces, sont d'un autre niveau. Il s'agit cette fois-ci d'une menace assez explicite faite à l'encontre de l'Ukraine, mais aussi à l'encontre de la communauté internationale, et notamment des pays de l'OTAN, pour rappeler que Vladimir Poutine considère avoir l'ascendant en matière d'escalade. Il est prêt à aller jusqu'au bout. L'Ukraine, il l'a dit, pour lui, est un enjeu existentiel. Et donc, il considère que ça lui donne une forme d'ascendant, que lui est prêt à aller jusqu'au bout. Et il sait très bien, les Occidentaux l'ont dit, que ce n'est pas réciproque.
Alors, je reviens sur la menace nucléaire civile, j'ai envie de dire, les centrales nucléaires, Elie Tannenbaum. Est-ce qu'il faudrait fermer l'espace aérien ? On entend clairement les autorités ukrainiennes le demander. Est-ce qu'il faut fermer l'espace aérien au-dessus de ces centrales nucléaires ? Pour éviter les bombardements, évidemment.
Honnêtement, ça,
ça changerait rien.
Si, évidemment, ça changerait. Mais d'abord, vous pouvez pas fermer l'espace aérien juste au-dessus de quelques tout petits points du théâtre. En fait, il faut créer de vastes zones d'exclusion aérienne. Et créer une vaste zone d'exclusion aérienne, ça implique de détruire les avions russes en vol, de détruire les systèmes antimissiles de différents niveaux de l'aviation russe pour garantir la pérennité des avions qui, eux, voleraient pour vérifier l'exclusion aérienne. Donc en gros, ça veut dire la guerre avec la Russie. Et ça, c'est le même problème qui s'est posé au moment de la Syrie, au moment de la Libye. En fait, les civils, les diplomates parlent parfois de faire une no-fly zone comme si c'était une mesure technique. C'est un choix politique, c'est un choix, en gros, d'entrer en confrontation. Et Vladimir Poutine a dit, n'essayez pas de vous mettre en travers de mon chemin, sinon il y aura des conséquences encore jamais vues. Il montre encore une fois qu'il est prêt à aller à l'escalade, même si je pense que militairement, il n'en a plus les moyens aujourd'hui d'ouvrir, on va dire, un nouveau front élargi vers les Occidentaux. Mais ça pose un risque, un vrai risque, y compris, encore une fois, dans l'escalade. Mais une zone d'exclusion aérienne, ça veut dire concrètement, sinon la guerre, du moins des combats entre ceux qui mettraient en place cette zone d'exclusion et les forces russes qui volent aujourd'hui dans l'espace aérien ukrainien.
Cécile Vessier, si Vladimir Poutine a mis en alerte les forces de dissuasion nucléaire, ce serait donc aussi pour créer une sorte de sidération parmi la population, parmi aussi les Occidentaux, et peut-être même tenter de nous diviser dans son mode de fonctionnement. L'intimidation, c'est la marque de fabrique de Vladimir Poutine.
Disons qu'actuellement, il est entré effectivement dans ce registre-là. Jusqu'à présent, il y avait d'autres façons d'approcher les choses. Là, il est entré dans l'espèce d'intimidation par la force. C'est-à-dire, je peux aller plus loin que vous et je ne risque rien et je n'ai peur de rien. Et de toute manière, ma population va être contrainte de se taire et je vous ferai peur à tous. C'est-à-dire qu'il est dans un registre, je dirais, de j'assume ma barbarie et vous, les Occidentaux, face à cela, vous êtes démunis, vous ne savez pas que faire, parce que pour lui, nous sommes des gens faibles qui n'osons pas utiliser la force.
Et justement, du coup, ça veut dire que les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils doivent faire en ce moment face à cette menace nucléaire, militaire, là, on parle ? Est-ce qu'ils doivent bouger ? Est-ce qu'ils doivent s'organiser ? Est-ce qu'ils doivent commencer à préparer, eux aussi, leur arsenal nucléaire ?
Écoutez, moi je suis pas spécialiste de défense. Pour l'instant, il y a une chose qui se passe très bien dans l'Union européenne et je dirais en Occident en général, c'est cette union qui se passe. C'est-à-dire que effectivement, Monsieur Poutine a toujours essayé, ça par contre c'est une constante chez lui, de diviser, de s'adresser à un pays, de dresser un pays contre l'autre. Donc je crois que face à cette, si vous voulez, cette barbarie déchaînée qu'il est en train de raser des villes, il faut la première chose, rester tous ensemble. Je crois qu'il faut essayer de trouver des alliés. Ça n'a pas peut-être pas été suffisamment fait à l'intérieur de la société russe pour voir s'il y a une façon de régler problème en interne.
On va en parler. Juste une question pour terminer ce chapitre militaire, Elie Tenenbaum. On a vu, vous disiez à l'instant que Vladimir Poutine n'avait pas les moyens d'aller ouvrir une nouvelle brèche plus à l'ouest. On a vu des militaires russes avec des talkie-walkie civils et non pas militaires, ce qui aurait d'ailleurs permis aux Ukrainiens de brouiller facilement les fréquences. Est-ce que ce n'est pas contradictoire alors que Vladimir Poutine a justement modernisé l'armée russe depuis 2010 ?
Oui, l'armée russe a été modernisée de manière sélective, c'est-à-dire que c'est une très grosse armée qui a été modernisée en fait de manière accélérée à partir de 2008-2009 et forcément il n'a pas pu moderniser la totalité de l'armée, donc en fait on a des unités qui sont fortement modernisées, fortement professionnalisées, bien entraînées et des unités qui le sont beaucoup moins. Celles qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, notamment avec ces jeunes soldats qui sont à peine des soldats sous contrat, qui sont arrêtés et qui s'expriment des fois devant les caméras sur leur désarroi, font clairement partie de la couche basse de l'armée russe. On est à aujourd'hui 150, 180 000 soldats russes qui auraient été engagés soit aux abords, soit à l'intérieur du territoire ukrainien. À l'intérieur de ça, vous avez une force extrêmement hétérogène, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il ne faut pas non plus surinterpréter les images qu'on voit, surtout celles qui sont diffusées par les Ukrainiens, et c'est normal, ça donne du beau mot.
Ça fait partie de la guerre de l'information.
Voilà. De voir aussi des unités russes peu professionnelles et défaites, ça n'est qu'une partie du tableau. Mais effectivement, il y a une partie qui n'a pas été modernisée.
Cécile Vessier, il y a eu des rassemblements hier dans plusieurs capitales européennes et aussi en Ukraine contre cette guerre. En Russie, quelle est la marge de manœuvre de ceux qui osent émettre des réserves sur le bien fondé de cette guerre ?
Écoutez, un tournant absolument terrible a été pris actuellement en Russie. Depuis 2000, Monsieur Poutine étouffe systématiquement les libertés en Russie, y compris la liberté d'expression. Depuis janvier 2021, c'est-à-dire depuis le retour de Navalny, les choses ont pris un tournant, je dirais,
extrêmement inquiétant.
L'opposant Navalny, qui se trouve dans un camp actuellement, qui est jugé une nouvelle fois pour n'importe quoi. Et là, vraiment, ces derniers jours, les choses sont de pire en pire. C'est-à-dire, il faut avoir conscience aussi qu'une partie de la société civile russe est en train de quitter la Russie en urgence. Alors, les avions arrêtent de voler. Le ciel international est fermé. On a vu ces derniers jours quasiment une panique chez les Russes disant comment peut-on partir ? Où peut-on partir ?
Mais ils partent en train, ils partent en bus qu'effectivement, Aeroflot notamment va bientôt cesser.
Je crois que c'est déjà terminé. Ils partent par tous les moyens. Il y avait notamment des vols pour Yerevan, en Arménie. Beaucoup de Russes de l'opposition se trouvent actuellement en Arménie. Certains se trouvent en Géorgie, dont d'autres ont rejoint Vilnius. Par tous les moyens, ceux qui le peuvent partent. C'est-à-dire que on m'écrivait hier par mail, puisque les réseaux sociaux sont en partie coupés. On a l'impression de se trouver dans la pièce de Bulgakov, la fuite. C'est-à-dire, c'est celle qui raconte la fuite après la révolution.
Mais vous êtes en train de dire que finalement, il n'y a plus, si tout le monde s'en va, il n'y a plus d'opposition possible, il n'y a plus d'opposition capable de s'organiser?
il n'y a plus de possibilité pour une opposition de s'organiser de manière, je dirais, un peu normale, puisque l'opposition, et là je vous parle même pas de l'opposition, l'opposition est déjà partie, celle qui n'était pas en prison. Mm-hmm. Je vous parle de ce que j'appelle l'intelligentsia, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent, les gens qui débattent, des gens qui ne sont pas d'ailleurs forcément engagés en politique, et qui se rendent compte que actuellement, M. Poutine est en train de refermer le pays sur lui-même. Quand on dit justement, il coupe les réseaux sociaux, cette nouvelle loi qui est une abomination qui vient de sortir
sur la presse
qui fait que si une personne sort dans la rue avec un petit panneau en disant je suis contre la guerre, quelque chose de tout à fait pacifique,
si le mot guerre apparaît, ça peut coûter 15 ans de prison,
ça peut être 15 ans de camp. Donc les gens le savent, il y a des appels à manifester aujourd'hui en Russie. On verra ce qu'il en est.
Dans quel régime on est en train de basculer? Parce que c'était déjà un régime autoritaire et dictatorial. On est en train de franchir un cran, ça s'appelle comment?
Écoutez, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est une dictature dorénavant. C'est clairement une dictature. C'est le retour d'une certaine manière, par certains aspects, à l'Union soviétique. C'est-à-dire à un pays qui va se retrouver fermé, où les gens ont peur, où vous avez une propagande maximale qui se déchaîne, mais ça, elle se déchaîne depuis 8 ans, mais c'est de pire en pire, et on va avoir, et ça va être le deuxième danger auquel il faut penser aussi, on va avoir une société qui s'écroule économiquement, où les gens vont, à 80% d'entre eux, manger des patates, parce que là, actuellement, on vient par exemple d'annoncer que les cartes bancaires, la Mastercard et Visa arrêtent de fonctionner, tout le système bancaire s'écroule, la Sberbank est complètement en faillite. C'est-à-dire qu'on va avoir les gens qui resteront en Russie vont crever la dalle. Et M. Poutine peut dire le contraire, c'est ça qui va se passer. Donc après, où va-t-on vers ça?
Elie Tenenbaum, est-ce que les Occidentaux ont la possibilité de tenter de retourner des collaborateurs de Vladimir Poutine?
Bon, je pense que les services de renseignement occidentaux ou autres, d'ailleurs, depuis très longtemps, travaillent sur l'entourage du Kremlin. Et en même temps, vous savez, l'isolement dont on a beaucoup parlé au moment de la venue du président Macron, il s'applique y compris en interne. Je veux dire, Vladimir Poutine est considérablement isolé. Il se repose sur une poignée de conseillers qui ont été sélectionnés au fil des années comme des ultra fidèles. Après, la question peut se poser à Cécile Bessier, mais honnêtement, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il tient son pouvoir politique extrêmement en main et que toute tentative d'ingérence extérieure, ne ferait qu'accroître évidemment sa paranoïa. C'est une balle à un coup. Et puis, par ailleurs, ça reste des manœuvres extrêmement, extrêmement difficiles. Il y a toujours des possibilités, mais je ne suis pas dans le secret des dieux.
Mmh. Dernière question, sans doute, Elie Tenenbaum. C'est une question qu'on se pose beaucoup, nous, côté occidental. Est-ce que Vladimir Poutine s'arrêtera à l'Ukraine ou est-ce qu'il ira au-delà? Est-ce qu'il ira jusqu'en Europe occidentale? C'est notamment ce que dit beaucoup le président ukrainien, Vladimir Zelensky.
Volodymyr Zelensky.
Je pense qu'il faut toujours écouter ses adversaires, et Vladimir Poutine en l'occurrence a beaucoup parlé, et en décembre il a posé 2 projets de traité sur la table qui fixaient très clairement ses objectifs politico-militaires, qui étaient une forme de neutralisation, de démilitarisation, pour employer le terme qu'il utilise aujourd'hui sur l'Ukraine, de l'ensemble des pays d'Europe de l'Est qui n'étaient pas dans l'OTAN avant 1997. Donc ça implique évidemment beaucoup de monde. Pour autant, dans l'immédiat, tout dépendra quand même de la manière dont les choses se passent pour lui en Ukraine. Et je le vois pas avoir les marges de manœuvre pour tout de suite réouvrir un nouveau front.
Merci à tous les deux, Elie Tenenbaum, et merci Cécile Vessier d'être venue un peu éclairer nos lanternes ce matin et faire le point sur les rapports et les ambitions de Vladimir Poutine en Ukraine. Merci et bonne journée.
Merci à vous.